décryptage.
Loïc Bussière.
C'est un conflit qui prend des airs de guerre, de tranchées, guerre dans laquelle aucun des protagonistes ne semble vouloir céder du terrain. Au 51e jour de grève contre la réforme des retraites, les deux camps restent campés sur leur position. Le gouvernement, tout d'abord, sûr de son fait et d'une réforme qui garantit, assure-t-il, plus de justice sociale. Sûr également les opposants au système universel par points, déterminés à faire retirer un projet de loi qui s'apprête pourtant à être présenté en Conseil des ministres demain. En attendant, les Antilles poursuivent leurs actions sur le terrain avec une nouvelle journée d'action nationale au moment où Matignon se penchera justement sur les 64 articles du texte. Une étape clé pour l'exécutif, suffisante pour qu'il maintienne son cap à contre-courant de la rue et de l'opinion. C'est la question que l'on se pose ce soir dans Décryptage avec nos invités. Nos invités François Charpentier et Michaël Zemmour. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
François Charpentier, vous êtes journaliste spécialisé de la protection sociale, auteur d'une nouvelle sécurité sociale de Bismarck à Macron, édité chez Economica. Michaël Zemmour, vous êtes économiste, maître de conférences en économie à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Alors monsieur, on a beaucoup parlé de semaine test, de moments charnières pour le gouvernement depuis le 5 décembre et le début de ce conflit sur la réforme des retraites. En quoi est-ce que l'étape de demain, à savoir la présentation du texte en Conseil des ministres, est-elle une étape clé ? Monsieur Charpentier.
Écoutez, de toute façon, l'adoption d'un projet de loi sur un thème comme celui-là marque une date dans l'histoire des retraites, forcément, puisqu'on change quand même la donne considérablement avec une réforme systémique par rapport à toutes les réformes précédentes qui étaient des réformes paramétriques. Donc en soi, c'est déjà un premier événement. Deuxièmement, on enclenche un processus, adoption du projet de loi, discussion ensuite auprès du Parlement, et tout ça sur fond de mouvement social dont on ne sait pas trop comment il va tourner.
Michaël Zemmour, c'est le signe justement, cette présentation en Conseil des ministres du texte sur les retraites, signe, comme le suggérait François Charpentier, que la machine est lancée.
La machine, elle est lancée depuis un bon bout de temps. Ça fait 2 ans qu'il y a des concertations sur les retraites. Mais cela dit, on a vu des textes arriver au Parlement et finalement ne jamais être appliqués. Par contre, il y a effectivement un tournant, c'est que ça fait 2 ans qu'il y a des discussions autour de cette réforme. Et pour les observateurs, pour les partenaires sociaux, pour les économistes aussi, subsiste beaucoup de flou. Et ce qu'on attend demain, à l'occasion de ce projet de loi, c'est notamment une étude d'impact. C'est-à-dire que le gouvernement chiffre les perspectives de sa réforme, à la fois budgétairement, pour l'instant on n'a rien vu, et également sur les effets individuels. On a eu quelques cas types, une dizaine de cas, mais ce qu'on aimerait bien voir, c'est sur un grand échantillon de population, des dizaines de milliers de personnes, qu'est-ce qui se passe ? On sait que ça va baisser en moyenne, ça s'est annoncé, mais comment ça baisse ? Est-ce que ça baisse plus pour les unes ou pour les autres ? Et ça serait intéressant à voir.
Vous voulez dire qu'on est pour l'instant plutôt dans une déclaration d'intention et que vous attendez des précisions ? Pour l'instant, le gouvernement assure qu'il faut croire en sa bonne foi et en fait que cette réforme est une réforme de justice sociale, comme je le disais tout à l'heure ?
Le problème, et notamment pour les économistes, c'est qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les données, et ça fait quand même plusieurs mois que ça dure. On sait que le gouvernement, pour préparer la réforme, évidemment, fait des simulations. On ne va pas fixer des paramètres sans avoir fait de calcul. En France, on a une tradition de grande transparence des chiffres. On a le Conseil d'orientation des retraites qui met beaucoup de chiffres sur la table et qui permet aux partenaires sociaux de discuter. Et sur la réforme, depuis le début, même du temps du rapport de Levoix, les partenaires sociaux et les observateurs n'ont cessé de demander des simulations, des chiffres, des données, différentes hypothèses. Pour l'instant, on n'a rien, ce qui fait qu'on a beaucoup de questions sur lesquelles on reste sans réponse. Moi, ma question, et ce que j'attends un peu du projet de loi demain, c'est de savoir s'il y aura davantage de transparence.
François Charpentier, vous attendez justement, vous aussi, plus de transparence demain ?
On attend beaucoup d'informations, effectivement, dans ce projet de loi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent floues. Simplement, les simulations, moi je répète toujours la même chose là-dessus, j'ai un peu l'impression de me répéter, on ne peut faire des simulations que sur des données qui ont été négociées. Okay. Or, pour le moment, beaucoup de points sont en cours de négociation ou devront l'être ultérieurement. Si par hasard vous faites une simulation avant, ce que vous risquez de faire, c'est de faire beaucoup de mécontents ensuite si la négociation n'aboutit pas. Donc, il faut faire extrêmement attention. Moi, je crois que déjà, il faut qu'il cadre bien le sujet, recadre le sujet, et qu'à partir de là, on donne un calendrier de négociation qui soit précis, avec peut-être même des dates butoirs, pour savoir catégorie par catégorie, régime par régime, où on va.
Vous parliez, ceci dit, de mécontents potentiels à l'issue, justement, de ces réformes. On peut vous objecter que des mécontents, il y en a déjà avant même dans les rues.
Il y a des mécontents et il y a des gens qui sont très contents. La semaine prochaine, j'irai à Avignon, par exemple, devant un public d'exploitants agricoles, avec la FNSEA qui m'a demandé d'aller expliquer un petit peu ce qui se passe. Ces gens-là, eux, demandent la réforme. Il y a des gens qui ne parlent pas. Les salariés, par exemple. Les salariés, les du privé, ne parlent pas. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont pas vraiment concernés, pour la plupart d'entre eux, dans la mesure où ils ont des régimes à Gercarco qui assurent pour les cadres, 57% de leur retraite, pour les non-cadres, 31%. Donc, ceux-là ne se plaignent pas trop. Il y a des bas salaires, évidemment. Dans les catégories de salariés, il y a des problèmes qui se posent. Je prends toujours un cas qui est particulièrement difficile. On le sait, c'est pas simplement en France, c'est partout. Prenez la petite vieille de 75 ans qui est seule et isolée, qui a jamais travaillé. Elle a un problème de retraite, évidemment, un problème de basse retraite. C'est cela dont il faut se préoccuper, parce que cela, il faudra effectivement vérifier que la réforme ne se fait pas contre elle.
Alors, en tout cas, donner la parole à Michaël Zemmour, qui hochait rudement la tête en entendant vos propos.
J'ai vraiment un point de désaccord sur le fait que vous dites que les salariés du privé ne sont pas concernés. En réalité, je n'ai pas la mémoire d'une réforme en France qui concerne autant de monde.
A priori, un système universel, il concerne justement tout le monde.
Alors justement, oui. La réforme, elle va concerner à la fois les salariés du public, les salariés du privé, les salariés du régime spéciaux. Et aussi, on a beaucoup entendu, les personnes nées avant 75 ne sont pas concernées. C'est pas vrai, il y a deux volets de la réforme. Mais la réforme, elle concerne toutes les personnes qui vont partir à la retraite après 2022. Donc évidemment, les interrogations, elles sont légitimes. Et l'ensemble de ces personnes, ce qu'on sait aussi, c'est que les taux de remplacement, c'est-à-dire la part de son salaire qu'on garde quand on part à la retraite, sont déjà en train de diminuer du fait des réformes précédentes. Et la trajectoire financière qu'a adoptée le gouvernement va les faire diminuer davantage. Donc l'anxiété, elle est assez légitime. On a une réforme qui concerne tout le monde et des pensions orientées à la baisse. Ce qu'on ne sait pas, c'est le détail de cette baisse, comment elle se répartit. Et les salariés du privé, comme les autres, ils sont concernés en gros par les deux volets de la réforme. C'est-à-dire que les personnes qui sont les plus proches de la retraite, celles qui ont aujourd'hui entre 60 et 45 ans, vont être concernées par une mesure d'économie. Alors la première idée, c'était plutôt l'âge pivot, dont on a beaucoup parlé. Ça reste l'hypothèse privilégiée par le Premier ministre, mais ça peut être remplacé par un allongement de la durée de cotisation, par exemple. Et puis les salariés du privé plus jeunes vont être concernés par le système à points, mais une de ses caractéristiques, c'est pas simplement qu'il est en points, c'est ce fameux âge d'équilibre, c'est-à-dire un âge qu'il faut atteindre pour toucher la valeur de son point.
Et qui est, lui, bien inscrit dans le texte de loi qui sera justement étudié demain.
Tout à fait. Il apparaît 39 fois dans le projet de loi. Il est prévu qu'il commence à 65 ans pour les personnes nées en 1975.
Donc en 2037.
En 2037, qui partiront à la retraite en 2037. Et les personnes qui sont nées dans les années 80 auraient un âge d'équilibre de 65 ans et demi. Celles qui sont nées à la fin des années 90 auraient un âge d'équilibre de 67 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous êtes né dans les années 90 et que vous partez à la retraite, mettons, à 63 ou 64 ans, il vous manque 3 ou 4 ans pour avoir l'âge d'équilibre, votre pension subit un malus de 15 à 20%. Donc les enjeux sont pas maigres et c'est pour ça qu'on aimerait avoir des chiffres et des projections sur toutes les trajectoires possibles.
François Charpentier, une réaction ?
Il a raison sur le fond, mais moi je rappellerai simplement historiquement ce qui s'est passé. J'ai le souvenir qu'en 1945, quand on a mis en place l'assurance vieillesse, on avait mis en place un régime bas de gamme, à minima. En 1970, à peu près au milieu des années 70, vous me corrigerez si je me trompe, mais on est arrivé à parité de revenus entre les retraités, qui jusque-là étaient des pauvres et restaient des pauvres, et les salariés du privé. Et j'ai le souvenir de directeurs généraux de l'AGIRC et de l'ARCO qui me disaient « on n'aurait jamais cru qu'on aurait eu ça ». Alors, en matière de retraite, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, parce que vous êtes économiste, il y a quand même deux variables, essentiellement. L'économie, la situation économique. Si vous avez une bonne économie, vous faites des salaires et vous faites des cotisations, ça se fait tout seul. Ou bien la démographie. La démographie est quand même une variable extrêmement importante. Les chiffres qu'on a actuellement sur la démographie, ils sont pas catastrophiques, hein. Ils sont même plutôt bons au niveau de l'Europe. Quand on regarde la France par rapport à tous ses voisins, elle a effectivement des problèmes d'allongement de l'espérance de vie, ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, elle a encore un taux de fécondité qui reste à peu près acceptable. C'est le premier au niveau européen par rapport à d'autres pays. Donc tout n'est pas noir. Hein, il faudra bien voir un peu ce qui va se passer. Maintenant, pouvoir dire à l'avance, à 10 ans, 20 ans, 30 ans de distance, c'est toujours compliqué. Moi, personnellement, je suis les négociations de retraite depuis 30 ans, 40 ans. Nos experts, que ce soit, vous avez cité le corps ou autre, ne se sont jamais trompés. À l'agir qu'à l'ARCO, ils se sont jamais trompés, mieux. Ils ont absorbé des chocs tout à fait considérables. Par exemple, à partir de 2006, quand vous avez eu la génération du baby-boom qui a commencé à arriver à l'âge de la retraite. On est passé d'une année sur l'autre de 350 000 personnes en retraite à 700 000 dans l'année. Et on l'a absorbé. Et aujourd'hui, ces régimes affichent plutôt des excédents. Donc, il faut pas non plus noircir le tableau. Il y a des réserves, il y a des choses qu'on peut faire. Et après, évidemment, il va falloir négocier dans le détail, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, ça sera pas, il y aura des perdants et des gagnants dans l'opération. On raisonne apparemment hein, à enveloppe constante, voire légèrement décroissante.
Alors François Charpentier, puisque vous citez justement le corps dont vous dites qu'il ne s'est jamais trompé, le corps c'est le Conseil d'orientation des retraites, qui est sous tutelle du Premier ministre, rappelons-le toutefois, c'est sur le rapport de ce fameux corps que se base la réforme, le projet de loi de réforme des retraites.
Oui, attention.
Est-ce qu'il fait autorité ? Il semble qu'il ne fasse pas autorité ce rapport des retraites, en tout cas il est...
Ah bah écoutez, attendez, ce que vous dites sous la tutelle du Premier ministre, mais il y a tous les syndicats qui siègent dedans, des parlementaires, des économistes, des gens de la direction de la prévision, de différents services de l'État, etc.
Il n'en reste pas moins que ce rapport du corps, il a été commandé par le Premier ministre et que le corps est sous tutelle du Premier ministre.
C'est pas parce qu'il est commandé que vous avez un rapport sous tutelle. Sinon, les syndicats, ils interviennent aussi. Non, je pense là qu'on peut pas faire un procès au corps. Quand même, depuis le temps que le travail du corps a été mis, il n'y avait rien avant. Aujourd'hui, on a des documents régulièrement, des informations sur la retraite dont on ne disposait pas autrefois. Et je n'ai rarement entendu des critiques sur la qualité des travaux du corps, quels que soient les gouvernements. Je sais pas, je peux me tromper, mais j'ai pas entendu.
Michaël Zemmour, vous avez entendu, vous, des voix discordantes, justement, des gens qui, des économistes qui ne pensent pas dans le même sens que le corps?
Oui, alors justement, il y a le rapport du corps et il y a la lecture qui en est faite par le gouvernement. Le rapport du corps, il est assez équilibré et il dit, d'ici 2030, compte tenu du fait que le gouvernement a diminué les recettes des retraites, il va falloir trouver 12 milliards pour financer les droits des retraités actuels. Et il dit, il y a trois façons de financer ces 12 milliards, soit diminuer les retraites des personnes déjà à la retraite, soit augmenter le taux de cotisation, mais très légèrement, de manière tout à fait supportable, soit diminuer les pensions des personnes qui partent à la retraite. Et il se trouve que le gouvernement a écarté les deux premières possibilités et fait le choix de faire 12 milliards d'économies sur un très petit nombre de personnes. Finalement, c'est les 4 millions de personnes qui vont partir à la retraite entre 2022 et 2027. Et là, c'est pas le rapport du corps. C'est le choix du gouvernement de dire les économies, on va les faire sur les départs en retraite. Et si vous faites des économies de 12 milliards sur assez peu de personnes, ça fait des baisses de droits très substantielles. Et c'est là où le gouvernement a une hypothèse d'âge pivot à appliquer très rapidement, ou alors d'allongement de la durée de cotisation. Pour les personnes concernées, on peut estimer, alors toutes les personnes ne seraient pas concernées, mais selon les profils, ça ferait des baisses de droits de 5 à 8%. Pour des personnes qui ont aujourd'hui entre 60 et 45 ans.
Alors le débat, on le voit quand même assez technique en ce qui concerne justement l'architecture, la mécanique, on peut le dire, de cette réforme. Est-ce que vous pensez, comme le pense l'exécutif, je me tourne vers vous François Charpentier, qu'il faut continuer à expliquer encore, comme le disait il y a une dizaine de jours Emmanuel Macron lors d'un déplacement à Pau, alors précisément qu'il y a un sondage qui est paru hier, un sondage Elab, qui précise que plus de 6 Français sur 10 considèrent que le président devrait retirer sa réforme. Ils n'ont rien compris ou pas ?
Non, c'est pas. Moi, je n'ai pas à juger ce que disent 6 Français sur 10. Je pense qu'effectivement, il faut continuer à faire de la pédagogie. On est sur un sujet quand même qui est extrêmement complexe. On l'a dit au début, c'est la première fois qu'on fait un régime universel en matière de retraite. Au passage, on a fait un régime universel en matière de santé, et depuis 2004, ça fonctionne, avec des problèmes aussi. Hein. On a eu 25 ans de déficit continu dans l'assurance maladie. On fait un régime d'assurance chômage qui s'élargit à des nouvelles catégories. Ça a été l'objet des négociations manquées entre les syndicats et le patronat. Donc on voit bien que c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas simple de faire ce type de réforme. Donc la pédagogie, moi, je pense qu'il faut en faire. Je le disais, je pense que quelque part, on a raté quelque chose. Une grande campagne nationale de communication sur un sujet comme celui-là, ça aurait pas été superflu.
Alors, Michaël Zemmour, je reformule justement cette question. Est-ce que vous pensez que les plus de 6 Français sur 10 qui sont contre cette réforme, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas compris et qu'il faut continuer de leur expliquer, ou au contraire, qu'ils ont bien compris ce qu'il y avait dans la réforme et que c'est pour ça qu'ils sont dans la rue et qu'ils sont contre ?
Je pense qu'ils ont assez bien compris. Effectivement, il y a 2 enjeux de la réforme. Il y a une baisse immédiate des pensions et il y a une transformation du système. Et ce sentiment-là, il est général. Que tout le monde n'ait pas compris les détails, c'est assez compréhensible parce qu'il y a un discours assez volontairement technique. Par contre, je pense que du côté du gouvernement, il y a quelque chose d'assez étrange. C'est un décalage entre le discours qui est porté et la réalité de la réforme. Je donne juste un exemple. Le Premier ministre a expliqué que cette réforme ne ferait que des gagnants. Quand vous prévoyez un budget en diminution, c'est juste inenvisageable. Et donc, si le gouvernement voulait faire de la pédagogie, la première chose à faire, ça serait d'expliquer clairement les enjeux de cette réforme. On peut les résumer simplement. La France est atypique parce que les retraités en France vivent uniquement de leur retraite publique. Dans les autres pays d'Europe, il y a la retraite publique et les gens complètent avec des systèmes privés.
Mais c'est la capitalisation dont on entend parler ces derniers jours.
Exactement. Capitalisation, investissement immobilier ou assurance vie. Donc la question qui est devant nous, c'est est-ce qu'on garde cette spécificité d'avoir une retraite qui suffit à vivre, mais auquel cas il faut financer davantage, ou alors est-ce qu'on prend le tournant d'avoir une retraite qui existe, mais qui est qu'un premier étage, et qu'il faut compléter par de la capitalisation. C'est ça le vrai débat qui est devant nous pour les 20-30 prochaines années, et que le gouvernement se refuse à porter.
François Charpentier, vous pensez que si le gouvernement avait dit « le but, c'est de faire des économies, donc on va travailler plus longtemps, et puis vous allez peut-être avoir des pensions un peu moins importantes », vous pensez que ça aurait eu le mérite de la franchise et de passer un peu mieux auprès de la population ?
Écoutez, je ne sais pas si ça serait passé un peu mieux, mais sur l'idée qu'effectivement, on va passer un peu plus aller vers de la capitalisation, je n'y crois pas un instant, pour une raison extrêmement simple. Quand vous faites un régime à 3 plafonds de la sécurité sociale, je rappelle que 3 plafonds, c'est quand même 120 000 euros par an, vous ne donnez pas un bon signal aux partisans de la capitalisation, aux banques et aux assurances qui piaffent d'impatience depuis 30 ans dans ce pays. Et je vous rappelle quand même que alors qu'on a créé, effectivement, tout à l'heure, il a parlé d'une loi, vous avez parlé d'une loi qui n'a pas jamais été appliquée, ça a été justement la loi sur les fonds de pension, la française, la fameuse loi Thomas. Elle n'a jamais été appliquée parce que, quelque part, les Français n'en veulent pas. Quand vous regardez le débat en France, on a un système atypique à dominante de répartition, mais à ultra-dominante. Le seul pays qui nous était comparable jusqu'en l'an 2000, c'était l'Allemagne. Ils ont mis en place les fonds Richter et aujourd'hui, ça se passe très mal en Allemagne.
Mais François Charpentier, si vous nous parlez d'une loi qui ne s'applique pas parce que les Français n'en veulent pas, là en l'occurrence, on a une loi dont, a priori, une majorité de Français ne veulent pas, mais qui risque de s'appliquer, ce que vous appelez de vos voeux.
Attendez, c'est pas la même chose. Là, vous me parlez d'un sondage dont vous ne donnez pas vraiment le détail. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, là, c'est que c'était une loi votée par le Parlement. C'est tout à fait différent. On verra ce qui va se passer au Parlement. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Là, vous avez un programme électoral qui était celui de M. Macron. Il avait affiché la couleur. Vous avez des gens qui veulent ou qui ne veulent pas cette réforme. On verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Oui. Pour le moment, il y a un texte qui arrive en Conseil des ministres. J'allais dire quelque part, l'affaire est lancée, on verra la suite.
Et une opposition qui s'exprimera également demain dans les rues à l'occasion d'une nouvelle journée d'action nationale. Merci, messieurs, on n'en dira pas davantage ce soir. Merci, François Charpentier, spécialisé dans la protection sociale. Je rappelle que vous êtes auteur donc d'une nouvelle sécurité sociale de Bismarck à Macron, édité chez Economica. Merci à vous, Michaël Zemmour, d'être venu dans ce studio. Économiste, maître de conférences en économie à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Merci également à Déborah Lepage et à Claude Battista à la réalisation de ce décryptage.